VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Le président américain Barack Obama arrive aujourd'hui au Kenya, pays natal de son père, pour participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. Sa deuxième étape en Afrique, Addis Abeba, en Éthiopie. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, accusent les gouvernements de ces deux pays de violation des droits de l'homme et exhortent le président Obama à promouvoir le respect des libertés fondamentales pendant son séjour en Afrique. Idrissa Sedoudia.
Le chef de l'exécutif américain se promet de mettre l'accent pendant son périple africain sur la croissance économique. Elle dépend, souligne-t-il, de la bonne gouvernance, d'institutions démocratiques fortes, de la liberté d'expression et de presse, d'une vigoureuse participation de la société civile et du respect des droits de l'homme. Certains pays africains ont fait des progrès impressionnants dans ce domaine, mais d'autres pas, a écrit M. Obama dans une contribution aux routes, un site web essentiellement africain-américain. Sa visite, a-t-il ajouté, sera l'occasion d'aborder ces questions sans ambages, publiquement et en privé, dans ses conversations avec ses hôtes. Outre la menace terroriste que fait peser sur la région Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne.
Les États-Unis sont de plus en plus impliqués dans la lutte contre Al-Shabaab et ils interviennent notamment par le biais de frappes aériennes avec des drones. Mais les militants du groupe n'en continuent pas moins leurs attaques contre le Kenya, où ils bénéficient de complicité. Le point avec Benoît Hazard, chercheur au CNRS, joint à Nairobi par Nicolas Pinault.
On a découvert qu'il y avait des cellules dormantes d'Al-Shabaab à Garissa, à Mandera, mais aussi immédiatement après l'attaque de Westgate en 2013 dans le quartier de Isli qui se trouve au cœur de Nairobi.
Est-ce que les forces de sécurité kenyanes ont pris la mesure de cette menace intérieure des Shabaab ?
Jusqu'à une période récente, on pouvait se poser un certain nombre de questions sur la capacité des forces de sécurité kenyanes à réagir aux incursions des Shabaab sur le territoire kenyan, en particulier le long de la frontière avec la Somalie et dans la région de Garissa. En fait, depuis les événements de Garissa, il y a eu des renforts de troupes qui ont été envoyés sur place. En même temps, on a assez peu d'informations sur les troupes qui sont effectivement déployées au sol le long de la frontière somalienne. Ce qui est certain, c'est qu'on a des incursions qui se font de manière très différente. Les Shabaab ne sont plus dans une logique de massacre de masse des populations kenyanes, ce qui avait été un peu la logique après 2013, après l'attentat de Westgate et l'attentat de Garissa. Mais probablement que ça a joué un petit peu sur leur image en Somalie. Et donc actuellement, ils ont plutôt tendance à effectuer des incursions en territoire kenyan. Les cibles sont à nouveau des cibles qui sont celles des représentants de l'État, vers plutôt la police et plutôt l'armée.
Comment vous expliquez finalement que ce mouvement, malgré la mort de ses chefs, parfois très importants, arrive à se régénérer et arrive à perdurer dans le temps ?
Le mouvement Shabaab, c'est une organisation qui, au départ, mélange une organisation de type clanique, c'est-à-dire qu'on a en fait au départ en Somalie des sociétés qui sont des sociétés pastorales organisées sur une base clanique. Et en fait, les chefs de guerre ou les leaders des Shabaab, pour un certain nombre dans le passé, ont été liés à Al-Qaïda, en particulier à Al-Qaïda au Yémen. Mais un certain nombre de leaders Shabaab sont des chefs de guerre issus de l'Union des tribunaux islamiques et en fait qui font simplement régner la terreur et qui ont été éduqués en même temps dans une situation de guerre civile qui dure depuis plus de 20 ans maintenant en Somalie. En fait, on a là une capacité de régénérescence du mouvement qui est liée, à mon avis, en partie aux conditions, à la structure sociale somalienne, mais à la structure sociale somalienne contemporaine, c'est-à-dire liée à l'expérience de la guerre depuis 20 ans. Et effectivement, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas de possibilité de stabilisation politique dans la région tant que le conflit somalien n'aura pas été réglé.
Benoît Hazard, chercheur au CNRS. Crise au Burundi, l'Union européenne envisage de prendre des sanctions contre le gouvernement burundais pour avoir organisé des élections non représentatives, a fait savoir hier Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Europe. Bouda Rachid.
Les résultats officiels de la présidentielle burundaise controversée du 21 juillet sont prévus aujourd'hui. Bruxelles estime qu'en l'absence d'un dialogue substantiel pouvant conduire à un consensus national, le Burundi parviendra difficilement à restaurer la démocratie et la stabilité. L'Union européenne compte donc actionner pour une période pouvant atteindre 120 jours l'article 96 de l'accord de Cotonou qui s'applique lorsque les engagements démocratiques ne sont pas respectés par des signataires. Celui-ci prévoit notamment l'arrêt de la coopération. En attendant, l'Union européenne exige le retour immédiat de l'opposition au dialogue pour une sortie de crise et un retour à la démocratie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, à peine annoncé, le chronogramme des élections de 2016 divise la classe politique. L'opposition jugeant les dates choisies favorables au pouvoir parce que les présidentielles sont prévues avant les élections locales. Des détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le chronogramme prévoit le premier tour de la présidentielle pour le 21 février 2016. Il sera couplé aux élections législatives. En cas de second tour, le scrutin aura lieu le 20 mars 2016 et c'est en mai, le 19 précisément, que les élections au niveau communal, départemental et régional seront organisées. Ce chronogramme a été adopté de façon consensuelle selon des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante par l'ensemble de ses membres au cours d'une session plénière. Les partis politiques de l'opposition crient au scandale. La Commission électorale nationale indépendante a expliqué le choix d'un tel ordre séquentiel des élections par des contraintes de temps et de disponibilité du fichier qu'elle n'aura que vers la fin du mois d'octobre. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Bénin, le marché des alliances politiques grand ouvert pour l'élection des maires et de leurs adjoints après la proclamation des résultats des élections municipales et communales. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les nouveaux élus seront installés dans les tout prochains jours dans leurs fonctions par les préfets et procéderont ensuite à l'élection des maires, ce qui passera forcément par le jeu des alliances. Mais une question subsiste. Ceci se fera-t-il dans l'intérêt des populations? Réponse de Lancelot Aguiar, il est membre de l'alliance ABT.
Les gens avec qui il faut discuter sont des Béninois. Ont été élus conseillers dans ces localités-là. Donc les alliances ne peuvent être que sur l'autel de l'intérêt supérieur des populations à la base.
Encore 10 jours et le marché des alliances sera ouvert dans les mairies du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
L'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire impliquant la société Trafigura en 2006 rebondit 9 ans après le déversement des déchets à Abidjan avec pour bilan au moins 15 morts et plus de 100 000 personnes affectées. Amnesty International vient de dénoncer dans un récent communiqué le manque de volonté des autorités britanniques de traduire en justice celle multinationale. Tatania Mosso.
Trafigura. L'entreprise spécialisée dans les matières premières reste dans le collimateur des défenseurs des droits de l'homme. En mars 2014, Amnesty International saisissait la justice britannique pour déterminer le rôle de Trafigura dans ce déversement. Réponse, ils reconnaissent ne pas disposer des outils ni des compétences nécessaires pour enquêter sur le géant du négoce. Amnesty International se base sur 5 ans d'enquête et 5000 pages d'un dossier contenant de nombreux éléments tendant à prouver que le personnel de Trafigura basé à Londres avait peut-être organisé de façon intentionnelle le déversement des déchets en Côte d'Ivoire. La synthèse souligne au passage que l'affaire Trafigura n'est pas une exception. D'autres entreprises basées au Royaume-Uni seraient coupables à l'étranger de crimes environnementaux et de violations des droits de l'homme.
À Washington, 3 hauts responsables de l'administration Obama ont défendu lors d'une audience au Congrès hier l'accord nucléaire conclu la semaine dernière entre l'Iran et 6 grandes puissances dont les États-Unis. Chérubin Dorsil.
D'entrée de jeu, le président de la Commission des affaires étrangères, le républicain Bob Corker, a critiqué le secrétaire d'État John Kerry pour les termes de l'accord de Vienne. Mais John Kerry insiste, sans cet accord, Téhéran aurait pu accélérer davantage son programme nucléaire. Deux de ses collègues du cabinet étaient également au Congrès hier pour répondre aux questions des législateurs des deux partis. Le secrétaire à l'énergie Ernest Moniz, un physicien nucléaire qui a négocié les aspects techniques de l'accord, et le secrétaire au Trésor Jack Lew. Si l'accord est rejeté par le Congrès, le président américain Barack Obama a promis d'opposer son veto à cette décision.
Pour terminer, la lutte contre le groupe État islamique, l'aviation turque a effectué des raids aériens ce matin contre des positions du groupe dans la province frontalière syrienne de Kilis. Dans le même temps, vaste coup de filet de la police turque aujourd'hui contre des éléments de l'État islamique et des rebelles du PKK kurde dans 13 provinces en Turquie même. Selon l'AFP, 251 suspects ont été interpellés dans cette opération antiterroriste, notamment à Istanbul. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
personnel.